C'est Christine Cossette au microphone, heureuse de vous accueillir à cette autre émission de Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Sylvie Latreille, professeure en ecclésiologie à l'Institut de pastoral des Dominicains. Ses champs de réflexion et de compétences sont notamment l'Église, le leadership, le partenariat, les ministères, le travail en équipe, le bénévolat, l'ecclésiologie pratique et la formation des laïcs en théologie pastorale. Madame Latreille s'est particulièrement intéressée à une figure qui a marqué le paysage de l'Église catholique au 19e siècle, mais qui nous a donné des points de repère essentiels pour l'Église et la pastorale d'aujourd'hui. Son nom, John Henry Newman. Pour notre invité, l'héritage de Newman est plus que jamais significatif pour l'Église d'aujourd'hui. C'est donc avec plaisir que je reçois Madame Sylvie Latreille. Sylvie Latreille, bonjour.
Bonjour Christine.
Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation à participer à cette série d'émissions « Croire d'hier à demain ». Merci beaucoup.
Bienvenue.
Vous parlerez donc aujourd'hui du cardinal John Henry Newman, un ecclésiastique anglican du 19e siècle. Il a vécu en Grande-Bretagne. Sa conversion au catholicisme en 1845 a été un événement marquant de la vie ecclésiale tant anglicane que catholique. Or, le 19 septembre 2010, le pape Benoît XVI l'a béatifié à Birmingham, en Angleterre. Pouvez-vous nous retracer, Sylvie, les grands événements de la vie du cardinal Newman d'hier à demain? Nous voulons découvrir donc ce témoin de la foi.
Avec grand plaisir. Le cardinal Newman mérite d'être connu et mieux reconnu. C'était un grand théologien, un pasteur, un écrivain et un homme de prière, qui effectivement est mieux connu dans la tradition anglophone que francophone. C'est une figure du 19e siècle, puis elle est inspirante pour le mouvement du croire aujourd'hui. J'identifierais trois événements majeurs de sa vie, un peu comme une trame de fond pour suivre le mouvement du croire dans son itinéraire. Un premier mouvement, j'aimerais vous parler de la première conversion de Newman. Il est né à Londres le 21 février 1801. C'est un fils d'un banquier. Un des spécialistes de Newman va écrire « Il est né au cœur de la forteresse économique et financière de l'Angleterre victorienne ». Vous imaginez déjà un peu l'environnement. Oui. Nous sommes en pleine Angleterre victorienne. À la suite de problèmes financiers, la famille aura à vivre de nombreux déménagements et cela aura un impact, une incidence sur le jeune Newman.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez un exemple significatif à nous donner de cela?
Oui, par exemple, au mois d'août en 1816, il passe ses vacances d'été à l'école à Ealing, il y a 15 ans. Sa famille était à l'extérieur à cause du travail du père et le jeune Newman va rester à l'école même durant l'été. Et c'est à l'automne de la même année qu'il va vivre ce qu'il appelle lui-même sa première conversion.
Je croyais que sa conversion au catholicisme venait plus tard, vers le milieu du 19e siècle.
Vous avez raison, effectivement. Mais quand Newman parle de sa première conversion, comme je vous disais, en 1816, il fait référence à celle qu'il a vécue comme expérience de rencontre exceptionnelle avec le Dieu créateur. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans qui se retrouve seul durant l'été et Newman n'a jamais tenté d'expliquer cette expérience-là. Il ne fait que la raconter et il la raconte plusieurs décennies plus tard dans l'Apologia qui a été rédigée en 1864. Par ailleurs, cette expérience de rencontre avec Dieu va marquer son itinéraire tout au long de sa vie. Newman n'est plus le même. Il se sait désormais entre les mains de son Créateur. Ça sera son expression, sa théologie, Dieu Créateur. Et cette théologie-là sera son fil d'Ariane dans sa quête de vérité. Le cardinal Jean Honoré, le grand spécialiste français de Newman, évoque cette expérience spirituelle vécue à Ealing comme un événement de révélation. C'est quand même extraordinaire quand on fait cette relecture, hein, quand même presque 150 ans, presque 200 ans plus tard. On parle d'un dévoilement.
Vous avez évoqué un changement chez Newman. Alors, comment va se manifester ce changement dont vous parlez?
Alors, pour Newman, Dieu sera désormais reconnu au cœur de l'être et de la vie. Au cœur de l'être et de la vie. C'est plus le Dieu des philosophes ou des savants, mais bien le Dieu de la parole, celui qui se révèle et à qui Newman donne son adhésion. C'est un grand changement par rapport à ce qu'il avait appris pendant son enfance. De fait, il avait été initié à la religion des évangélistes et il avait reçu une éducation religieuse dans cette tradition.
Vous dites qu'il avait été initié à la religion des évangélistes. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui.
C'est pas évangélique.
Non, effectivement, évangéliste. Alors, la religion évangéliste, ça vient de la religion méthodiste qui a été instituée par Wesley, le porte-parole, vous savez, le célèbre revival.
Oui.
On entend même encore parler aujourd'hui. Alors, c'est ce renouveau spirituel qui est inspiré par une lecture littérale de l'Évangile. Mais Newman va prendre, on parle de changement, Newman va prendre une distance par rapport aux évangélistes, parce que les évangélistes valorisent l'émotion religieuse comme critère de la foi.
Oui.
Alors, le changement dont il parlait devient vraiment réel. Le grand spécialiste Honoré va dire que ce que va avoir vécu Newman, c'est comme une visitation de l'infini qui renouvelle dans les profondeurs de l'être le regard, la compréhension qu'on peut avoir de la réalité des choses. On est toujours le même, on reste soi, et pourtant, c'est comme si une nouvelle dimension apparaissait. On est loin de l'émotion religieuse comme critère de la foi.
Mm-hmm.
C'est une nouvelle voie qui s'ouvre à Newman et qui s'ouvre aussi à la conscience.
Mm-hmm. Alors, après cette expérience-là, à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui advient du jeune Newman?
Bien, je vous rappelle qu'il est anglican. Hein?
Oui, oui.
Alors, il va traverser une période de grande ascèse, une sorte d'austérité qui va mettre même sa santé en péril. Parce que même s'il prend ses distances face aux évangélistes, il demeure empreint de cette éducation. Il va entreprendre des études à Trinity College à Oxford, mais il va se tenir à l'écart de la communauté étudiante, leur reprochant, si vous voulez, leur jeunesse. Par ailleurs, en faisant ce choix, ça va lui le plonger dans une solitude et dans une vie studieuse un peu à l'écart, et ça ne le servira pas.
Non,
parce que ça va être beaucoup plus moraliste, je dirais, hein, que vraiment, il y a quelque chose là qui reprenait surface là, dans son éducation. À un moment donné, dans son parcours, il va prendre conscience que dans sa manière de faire, qui est marquée par l'influence évangéliste, il s'éloigne de ce mouvement d'abandon à la volonté divine vécue dans son expérience de rencontre dont je parlais tout à l'heure.
Oui, au fond, si je vous comprends bien, c'était un peu trop austère.
Austère, exactement.
Oui, hein,
doctrinal aussi, nous pourrions prendre une espèce d'aspiration à une vie épurée, rejetant même ce qui se passait autour de lui, parmi ses amis et parmi ses collègues d'études. Alors, c'est dans ce sens-là que ça ne l'a pas servi. Il va s'apercevoir qu'à un moment donné, c'était pas ça la volonté de Dieu, c'était plutôt la sienne, et que d'être dans la main de son Créateur, c'est vraiment de dépendre de son dessein sur lui. C'est le mouvement de foi en quelqu'un, et non pas seulement en des principes, en des dogmes,
en une doctrine.
Exactement. Alors, pour lui, il y aura vraiment une différence fondamentale entre ce que Honoré va nommer la connaissance verbale, que vous avez très bien illustré, et cette connaissance réelle. La foi ne s'apparente à la foi réelle qu'à la condition de maîtriser au-delà des mots la réalité du mystère de Dieu qu'il professe. Et c'est l'expérience qu'il avait vécue. C'est ce mystère de Dieu, et Newman va y consacrer sa vie, à la fois dans l'action pastorale, dans la recherche intellectuelle et universitaire, dans la vie de prière et de l'écriture. En 1824, il va être ordonné diacre. Il est toujours anglican. Hein? Alors, il est ordonné diacre. Il avait été élu précédemment fellow d'Oriel College et par la suite, il va être nommé tuteur au même collège. Il va exercer son ministère pastoral à St. Clement's et c'est important parce que c'est à ce moment-là qu'il va commencer ses premiers sermons à St. Clement's.
Oui, et qu'il va publier?
Il va publier ses sermons. Effectivement, mm-hmm. il y en a des bouquins et des bouquins. Mm-hmm. Puis toute sa vie, hein, il va avoir ce souci hein, de publier ses sermons qui vont devenir célèbres. Il va devenir curé à St. Mary's, à Oxford. Et regardez, c'est tellement extraordinaire. Durant le jour, il enseigne hein, en théologie à ses étudiants, Université d'Oxford. Et pendant ce temps-là aussi, il prêche à ses paroissiens l'après-midi, dans un langage tout simple, à travers ses sermons, il transmettait ce qu'il avait enseigné à ses étudiants durant le jour.
Vous avez abordé, Sylvie, dans le premier mouvement, la première conversion de Newman. Il est anglican, il est pasteur dans une paroisse et il est professeur à l'université. Nous savons que Newman s'est converti au catholicisme. Alors, pouvez-vous nous retracer l'événement ou en tout cas les circonstances qui vont amener Newman à cette conversion? Je pense que son engagement dans le mouvement d'Oxford a été précurseur de cette conversion. Alors, de quoi s'agit-il exactement?
Alors, effectivement, nous retrouvons Newman dans les années de 1833-1841. Et il sera très impliqué dans le mouvement d'Oxford. Ce mouvement va naître à la suite d'un discours qui est prononcé à l'université par John Keble, qui est un ancien fellows d'Oriel aussi. Et le titre de la conférence, ça va être « L'apostasie nationale ». Dans cette conférence, il dénonçait la suggestion très humiliante de l'Église par rapport à la couronne britannique. Ce mouvement, qui est initié par des ecclésiastiques de la Haute Église d'Angleterre, veut dénoncer le marasme dont souffrait l'Église anglicane au 19e siècle et sortir les fidèles de la morosité. Autrement dit, c'était comme de mettre une distance entre l'Église et l'État.
Mm-hmm. Parce que si j'ai bien compris, l'Église anglicane vivait un moment plus difficile à ce moment-là.
Tout à fait. Mm-hmm. Nous sommes dans l'ère victorienne aussi, mm-hmm. comme je le soulignais au début. Et cette influence et, je dirais, cette mainmise de la couronne sur la religion provoquait un marasme dans lequel était plongée l'Église anglicane et les représentants de la Haute Église, High Church, a commencé à interpeller l'Église anglicane sur ces années extrêmement difficiles. Mm-hmm. Ce fut, autrement dit, un mouvement de réforme qui a eu lieu et la manière de procéder pour faire cette réforme, c'était la publication des tracts. Mm-hmm. Souvent, c'était publié de manière anonyme. Les célèbres tracts qu'on a déjà entendus peut-être et qui ont tous été publiés. Des fois, on va dire que le mouvement d'Oxford s'apparente au mouvement tractarien. Ça vient exactement de cette manière de faire. L'autre manière aussi qu'ils avaient à leur disposition pour faire connaître leurs opinions puis vouloir ces changements dans l'Église, c'était par les sermons. Ah. Alors, Newman faisait des sermons, mais Keble aussi faisait des sermons et d'autres ecclésiastiques faisaient des sermons. Il y a eu toute une effervescence qui jaillissait à la fois dans les universités, mais aussi dans les paroisses. Et la démarche était intellectuelle aussi, dans le sens qu'il y avait une recherche des points d'appui dans la foi chrétienne qui servait d'horizon.
Mm-hmm. Et quelles étaient alors les réformes demandées dans l'Église anglicane?
Je vais laisser de côté tout le côté politique, si vous me permettez.
Oui,
je laisse de côté mm-hmm. le politique pour mm-hmm. me concentrer plus sur l'aspect ecclésial d'Église. Mm-hmm. C'est intéressant de voir comment est-ce que cette quête, c'est d'abord d'essayer de redevenir des témoins d'Évangile. C'est à cette aspiration, d'abord, que se manifeste ce mouvement de redevenir des témoins d'Évangile, de solidifier les bases hein, de la foi de l'Église anglicane, redonner une fermeté, si vous voulez, à la vie morale et opérer des changements plus à l'intérieur de l'Église. De ce fait, Newman va promouvoir l'importance du renouvellement de la prière et de la vie sacramentelle. Ça pourrait paraître familier à nos oreilles, mais attention, mm-hmm. si on se situe au milieu ou presque du 19e siècle de l'Église anglicane et de reparler du renouvellement de la vie sacramentelle, ce ne sont pas les mêmes échos que dans l'Église catholique.
Oui.
Vous pouvez imaginer déjà là, ce que ça peut provoquer comme réaction.
Mm-hmm.
En plus, Newman favorisait la communion eucharistique du dimanche. Et vous savez que dans la tradition anglicane, ce n'est pas
valorisé. Hein?
Non, exactement.
Ah, oui.
Mais là, Newman recommence à valoriser la communion eucharistique le dimanche et l'office quotidien.
Et puis, dites-moi, est-ce qu'il a été critiqué pour ce qu'il avançait, j'imagine?
Tout à fait. Bon. Ces changements demandés ont été qualifiés de zèle. Mm-hmm. On a qualifié Newman de zélé. Mm-hmm. Et en plus, il a été accusé de romanisme.
Oh. De Rome.
Oui, on parle pas de Rome.
Romanisme de Rome.
Oui, le romanisme de Rome. Donc, on lui a reproché d'être trop proche de Rome et la publication des tracts va entraîner un désaveu et un scandale dans l'Église d'Angleterre, ce qui mettra fin au mouvement d'Oxford.
Mm-hmm. Et quel a été l'impact de ce mouvement sur le cheminement de Newman? Est-ce qu'on peut parler d'impact?
Oui, certainement. Oui. Certainement parce que Newman, c'est un homme d'études. Il va développer une manière de comprendre l'anglicanisme qui serait en fidélité avec le christianisme des pères de l'Église.
Mm-hmm.
Et le mouvement d'Oxford aspirait à la perfection chrétienne. Et puis, l'idée de montrer que l'anglicanisme pouvait demeurer dans la fidélité apostolique et dogmatique.
C'est-à-dire, quand vous dites fidélité apostolique, là, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu?
Il s'agit des apôtres.
Oui.
Ils ont été choisis les 12.
Oui.
Et ça représente cette succession apostolique, la succession des apôtres.
Mm-hmm. Donc, retourner à la source.
Retourner à la source. Okay. Une enquête authentique va conduire Newman à l'étude des pères de l'Église, ce qu'on appelle la patristique, des textes organiques de l'Église anglicane et ceux de l'Église catholique, pour essayer d'établir des ponts, des correspondances sur les points essentiels de la foi chrétienne. Il va en découvrir, il va en faire une interprétation, il va même les publier dans le dernier tract, mais ça va provoquer un scandale dans l'Église anglicane et Newman est désavoué. Il aura à donner sa démission. Alors c'est sûr que ça a un impact sur son cheminement. Parce que, à la suite de cela, lui-même va écrire dans l'Apologia dont je parlais tout à l'heure, « Je ne m'attendais pas du tout à l'explosion et je fus saisi par sa violence. »
Et donc, qu'advient-il à ce moment-là de Newman?
Alors, vous comprenez bien qu'à la suite de ce douloureux épisode, Newman se retire à Littlemore de 1841-47. Il va se consacrer à l'étude, à l'approfondissement de la patristique, des textes catholiques, l'Écriture sainte, la Bible. Ses recherches l'amènent à découvrir la fidélité de l'Église catholique aux racines de son héritage. Il va prendre conscience que la doctrine catholique ne s'était pas écartée du christianisme d'origine, ce qui était le reproche que lui faisait l'Église anglicane.
Exactement. Hein? Oui, oui, oui.
Il découvre, là, Newman découvre cette fidélité de la succession apostolique dont je parlais tout à l'heure.
Au fond, il découvre que le catholicisme n'est pas si éloigné de la foi des apôtres.
Tout à fait, dans sa manière d'être aussi structuré.
Oui.
C'est la grande différence avec l'Église d'Angleterre.
Mm-hmm.
C'est dans sa manière d'être aussi structurée,
mm-hmm.
l'institution. Cette question de la succession apostolique devient pour lui une question fondamentale, tellement que ça devient un enjeu de la foi pour cet homme et même un enjeu de salut personnel.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Mme Sylvie Latreille, professeure en ecclésiologie de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal, qui nous entretient du cardinal John Henry Newman. On sait que le cardinal Newman a beaucoup réfléchi sur la foi. En quoi cette réflexion intellectuelle a-t-elle changé sa vie de foi?
On se retrouve à Littlemore et... C'est important de voir que Newman va vivre dans des conditions monacales, avec quelques disciples qui vont être autour de lui, et son souci, c'est d'approfondir cette foi catholique. D'abord, ses études vont l'amener à publier son œuvre magistrale, intitulée « Essai sur le développement de la doctrine chrétienne ». C'est comme une immense synthèse qu'il va faire, Et dans ce livre, il affirme comment la foi catholique qui est crue et vécue aujourd'hui, on parle bien du 19e siècle, se rattache par un lien vital et continu à la foi apostolique, à la foi des apôtres. Alors, au-delà de la recherche, ou je préfère dire grâce à la recherche, en 1845, John Henry Newman arrive au catholicisme.
Et que lui coûtait cette décision importante, finalement?
J'aime votre question, parce que on pourrait présumer que ça s'est fait tellement facilement, qu'il est arrivé au catholicisme facilement, alors que ce n'est pas le cas. Rappelons-nous le contexte dans lequel je décrivais tout à l'heure. Il a d'abord été reçu officiellement dans l'Église catholique le 9 octobre 1845. Ça a pris 2 ans. En 46, il part pour Rome. On est rendu à 3 ans. Pour devenir prêtre catholique, d'accord, mais il a besoin d'être formé. Ou déformé.
Oui.
Il va être ordonné en 1847. Vous voyez ce qu'il en coûte? Des années de formation et de déformation. La conversion aussi du célèbre anglicaniste, membre de la haute Église d'Angleterre, a provoqué beaucoup de remous, vous pensez bien. Et ce qui n'aidera pas d'une certaine façon à tempérer les réactions dans l'Église anglicane sera le fait que d'autres vont suivre Newman dans sa conversion au catholicisme. Il y a des étudiants qui le suivent.
Oui.
Il y a des collègues qui le suivent.
Alors, j'imagine que ça choquait les anglicans.
Tout à fait. Oui. Et se demander, Église en crise, qu'est-ce qui se passe? Pour sa part, le futur cardinal perdait son statut et aussi ses amis. Tout à l'heure, je vous ai dit, professeur d'Oxford. Alors, il a eu à vivre une séparation avec son ancien milieu. Et il semblerait qu'il y avait un manque d'affinité entre lui et son nouveau milieu. Autour de lui, on ne sait pas trop comment se comporter en sa présence.
Au fond, son statut social change.
Tout à fait. Ouais. Parce que même si Newman, sa famille a connu des difficultés financières, comme je le soulignais au début, il demeure qu'il faisait partie d'une société qui était bien nantie. Le monde des banques faisait en sorte qu'il avait été aussi mis à l'abri de bien d'autres formes de soucis. En résumé, Newman rencontre une franche hostilité comme catholique et lui-même va écrire à sa sœur en lui confiant « Je deviens une paria », ce qui n'est pas peu dire.
Vous venez donc de parler des réactions provoquées autour de lui, mais qu'en est-il des réactions de Newman en rentrant en Angleterre à la suite de son ordination?
C'est tellement étonnant. Pour moi, ça a été vraiment une découverte de voir que Newman va s'apercevoir quelle est la situation humiliante dans laquelle sont conférés les catholiques à l'époque victorienne. Nous avons de la difficulté à imaginer. Son étonnement, il est rendu comme de l'autre côté de la clôture, si vous me permettez l'expression. Et là, il découvre la situation humiliante. Il découvre que c'est une minorité. Mais pas seulement une minorité, mais en plus elle est silencieuse. Comme le souligne Jean Honoré, le fossé entre les anglicans et les catholiques n'avait cessé de se creuser depuis 3 siècles, ce qui est énorme. Alors, les catholiques sont plongés dans une grande pauvreté et une marginalisation. Nous pouvons comprendre aussi comment ça a été difficile de Newman de découvrir que l'accès aux universités, les grandes universités d'Oxford, de Cambridge, est interdit aux catholiques. Ça veut dire que les familles les plus prospères d'Angleterre qui sont catholiques sont obligées d'envoyer leurs enfants dans des universités dans d'autres pays.
Ah oui.
Et comme je vous disais, lui-même, c'est un universitaire. D'autre part, il va mesurer aussi l'écart entre l'idéal de la vie de foi, l'idéal de foi chrétienne tel qu'il l'avait découvert dans ses études, dans ses recherches avec la patristique, à relire les pères de l'Église, la Bible, les textes organiques, et de s'apercevoir comment est-ce que sur, si vous me permettez l'expression, sur le terrain, c'était la pauvreté dans l'éducation de la foi au quotidien. Il y a eu des désillusions.
Donc, il fallait qu'il soit vraiment convaincu de la pertinence de faire le saut.
Effectivement.
De l'anglicanisme et le catholicisme.
Effectivement, ce fut un chemin de découverte inattendue qui l'ont très certainement déstabilisé.
Oui.
Newman ne restera pas inactif devant cet état de fait. Il va mettre sur pied un modèle d'oratoire inspiré par Philippe Néri. Alors, il s'agit d'un modèle de vie communautaire qui correspondait mieux aux expériences à ses expériences antécédentes comme anglican. Mm-hmm. Il va fonder la première communauté anglaise de l'oratoire près de Birmingham en 1848.
Et est-ce qu'il a fait tout cela dans la facilité, là, ou cet oratoire, ça a été difficile pour lui?
Ça a été extrêmement difficile, ouais, à partir du moment où un de ses collègues s'est joint à ce projet et qu'il y a eu deux écoles de pensée.
Ah.
Et à cause de ces deux écoles de pensée, l'une était vraiment étrangère à ce que portait Newman comme projet.
Mm-hmm.
Il y a eu une scission entre les deux oratoires. Une a été déménagée à Londres, l'autre est restée à Birmingham. Et finalement, ce projet-là aussi s'est terminé de manière assez dramatique pour Newman.
Oui, a échoué finalement.
On pourrait relire aussi comme un autre échec.
Mm-hmm, mm-hmm.
Et dans ce projet d'oratoire, par ailleurs, ce qui est tellement intéressant, c'est de voir comment est-ce que Newman veut intégrer des laïcs. C'était très important pour lui.
Mm-hmm. En quoi leur porte-t-il un intérêt?
Ayant été confronté à cette pauvreté de l'éducation de la foi, il rêvait d'un laïcat, et je le cite, parce que ça vient directement de ses propres écrits, d'un laïcat sans arrogance de langage, ni téméraire, ni polémique. Mais il voulait avoir des hommes, bon écoutez, c'était des hommes dont il s'agit dans l'oratoire, des hommes qui connaissaient leur religion, qui savaient comment se situer, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils maîtrisaient, ce qu'ils ne maîtrisaient pas, être assez averti aussi en qui il croyait, en quoi il croyait. Dans le fond, on parle du credo, hein?
Mm-hmm.
Être capable d'en rendre compte.
Mm-hmm.
Et ce qui est intéressant, il leur demandait aussi d'être férus d'histoire pour être capable de défendre la foi chrétienne.
Mm. Au fond, son intention, si je vous comprends bien, c'est de ne pas laisser les laïcs dans l'ignorance.
Non, parce que c'est là qu'il s'apercevait que l'Église catholique en Angleterre souffrait, voyez-vous, parce que c'était ces personnes-là qui étaient laissées pour compte, minorités silencieuses.
Oui, on les privait d'éducation, etc.
Tout à fait. Alors, de redonner aux laïcats, et pour Newman, ce qui est important, il disait lui-même, depuis le début de l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des laïcs engagés.
Mm.
Le mot laïc n'existait pas, puis il y avait des personnes avec Paul, hein, qui étaient engagées, alors au nom même de leur foi. Il voulait avoir un laïcat intelligent, bien formé. Et ça, ce sont ces mots-là. Ce ne sont pas les miens. Les personnes qui me connaissent vont dire... Là, on comprend pourquoi qu'elle aime Newman.
Oui, oui.
Mais écoute, entendez-moi bien, là. C'est vraiment lui qui va dire un laïcat intelligent, bien formé, avec un savoir élargi, une raison cultivée, une aptitude à mettre en relation vérité et vérité, à apprendre à voir les choses comme elles sont, à comprendre le rapport entre la foi et la raison, et les bases et les principes du catholicisme.
C'è una barca nel mare, è una rotta da scegliere, una vela nel cuore, ed un soffio nell'anima. C'è una stella nel buio, e ogni sogno è possibile, un amore che nasce, e la gioia di vivere.
Il nous reste encore quelques minutes pour conclure, Sylvie Latreille. Alors, selon vous, selon votre perception, quels seraient les points de repère essentiels, je dirais, qui donnent à penser pour l'Église d'aujourd'hui et pour la pastorale?
Newman nous laisse un riche héritage qui est loin d'être épuisé parce qu'il est méconnu. Par exemple, avec tout le travail de l'intelligence qu'il a fait au service de la foi, que Newman a exécuté en étudiant les Écritures, les Pères de l'Église, les textes magistériels, autant de l'Église anglicane que catholique, il me semble qu'il nous interpelle sur la primauté de la parole de Dieu reconnue dans la tradition.
Oui.
Nous sommes héritiers d'une riche tradition, qu'elle soit de confession catholique, anglicane, orthodoxe, protestante, nommez-les toutes. Il y a là un héritage de la foi chrétienne. Et déjà de s'intéresser à l'Écriture, c'est déjà, il me semble, une première interpellation.
Mm-hmm. Parce qu'on peut, on y voit là la richesse donc de la longue tradition qu'il a mis justement en lumière.
Exactement. Un autre exemple, je dirais, tout le cheminement qu'il a pu vivre, sa conversion de 15 ans, à 15 ans entre autres, a été revisité pour Newman. C'est comme une expérience de rencontre personnelle avec Dieu. Alors, cette expérience-là, il l'a racontée. Elle a été interprétée par les auteurs et les spécialistes de Newman. Mais ça a été une expérience de foi qui a été vécue dans les réalités de sa vie. De jeune de 15 ans. Et c'était dans son quotidien, dans une culture d'une époque donnée. Je racontais tout à l'heure la difficulté à prendre la distance par rapport à la religion des évangélistes. Pourquoi?
Oui.
Parce que c'est là-dedans que Newman est né. Alors, ça montre bien ce cheminement qu'il a eu à faire, même à l'âge de 15 ans, pour essayer d'aller à la découverte de ce Dieu qui s'est manifesté à lui et pour être capable, après ça, de continuer sa route. C'est très actuel et je trouve que c'est révélateur d'une expérience spirituelle qui change toute une vie et qui met ensuite, cet événement, le met en route.
Est-ce que vous voyez d'autres pères pour aujourd'hui?
Je dirais, Newman, il est reconnu surtout pour l'importance de la conscience. Je ne peux pas taire cet élément-là. Ça fait trop partie de l'héritage de Newman. Lui-même va écrire, et c'est lui-même qui va dire, ses auteurs vont le réaffirmer, il n'a cessé dans ses sermons de rappeler à ses fidèles le devoir de suivre leur conscience et de mesurer leur conduite au poids de l'éternité. C'est très beau, Ce n'est pas « tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu peux », mais ce souci, et Augustin aussi va en parler de l'importance de la conscience, Thomas d'Aquin va parler de la conscience. Mais je dirais, à l'époque, vient la modernité, la postmodernité, Newman est vraiment un point de repère pour réfléchir sur la conscience.
Il y a aussi la reconnaissance du peuple de Dieu comme laïque,
Tout à fait. Tout à l'heure, on en a parlé un peu, ce désir d'un laïcat, formé, être capable de répondre de la foi chrétienne. Pour Newman, c'est les laïcs sont partie prenante du peuple de Dieu. Newman va conjurer les laïcs de se donner les moyens pour témoigner de leur foi et servir de l'Église. Voyez-vous, si on est loin de l'influence des évangélistes avec l'émotion comme critère de la foi, être capable de rendre compte. Aux yeux de Newman, le devenir de l'Église est lié tout autant au renouvellement de la pensée religieuse qu'à la formation des laïcs. Et c'est toujours au milieu du 19e siècle.
Oui, c'est donc un point de repère important aujourd'hui.
Exactement.
La formation des laïcs dans notre Église.
Tout à fait. Puis un renouvellement de la pensée religieuse. Il voyait là deux atouts qui sortiraient l'Église de son isolement de la nation à ce moment-là. Et de son absence du monde de la pensée. Déjà, Newman reprochait à l'Église, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, d'être déjà absent dans le monde de la pensée.
Oui.
Alors aujourd'hui aussi, ça nous aide à ouvrir les horizons. Ce rapport Église-monde, dans lequel l'Église, elle est dans le monde. Nous sommes du monde.
Oui. En tant que professeur en ecclésiologie, vous êtes à même de voir la richesse de cette pensée-là.
Exactement, exactement.
Pour l'Église d'aujourd'hui.
Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est que Newman va le placer comme des atouts. Pour l'Église.
Ouais.
C'est quand même intéressant.
Ouais.
C'est même pas des défis, ce sont des atouts.
Mm-mm.
Alors déjà, ça fait image.
Oui.
Ça fait image, je trouve ça très intéressant. Je dirais aussi, Newman, qu'est-ce qu'il nous apporte pour aujourd'hui? Je dirais sa capacité, ce don qu'il avait de dépasser le présent pour se projeter dans l'avenir. Ce sont ses auteurs et ses spécialistes qui vont dire ça de Newman, dans une interprétation de ce personnage. Être en mesure de voir ce que Newman a appelé lui-même les signes des temps.
Ben écoutez, Sylvie Latreille, je tiens à vous remercier de nous avoir fait, je dirais, entrer dans l'univers de Newman, comme vous le disiez, de ce grand théologien, de ce pasteur, de cet écrivain, de cet homme de prière, bref, comme vous le disiez toujours, de cette figure inspirante dans le mouvement du croire. Et je dois vous dire que vous nous donnez vraiment le goût d'aller le lire. Alors, je tiens à vous remercier.
Bienvenue et merci de m'avoir invité.
Je vous laisse donc sur une prière de John Henry Newman. Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m'encerclent, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Garde mes pas, je ne demande pas à voir déjà ce qu'on doit voir là-bas. Un seul pas à la fois, c'est bien assez pour moi. Je n'ai pas toujours été ainsi, et je n'ai pas toujours prié pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant. J'aimais choisir et voir mon sentier, mais maintenant, conduis-moi, toi, toujours plus avant. Si longuement ta puissance m'a béni, sûrement elle saura encore me conduire toujours plus avant, par la lande et le marécage, sur le rocher abrupt et le flot du torrent, jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée. Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi toujours plus avant. Cette prière, vous pouvez la retrouver sur le site internet de Spiritualité 2000. Avant de vous quitter, laissez-moi donc remercier bien chaleureusement Madame Sylvie Latreille, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Un merci tout particulier à Marc Chevary pour son soutien technique. Je remercie aussi Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions « Croire d'hier à demain » réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. C'est Christine Cossette au microphone qui vous souhaite donc de passer une très bonne semaine. Au revoir.